Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 172. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que je suis responsable ? Est-ce que ce que je fais est responsable ? Cette question, je me la suis posée il y a quelques années. Quand on travaille dans le marketing, on participe à la problématique de la surconsommation. Pas très responsable. Ouais, sauf que c'est mon travail. Alors, est-ce que je peux faire du marketing de façon responsable ? Est-ce que le marketing, eh ben ça peut être autre chose que de pousser les autres à consommer, à surconsommer. Cette question, je l'ai posée à mon invitée, Charlène Patras, pour comprendre comment on pouvait allier marketing et responsabilité. Si vous vous êtes déjà posé cette question sans trouver les moyens concrets d'y répondre, eh ben cet épisode est fait pour vous. Et je vous propose d'accueillir tout de suite Charlène Patras. Bonjour Charlène et bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle.
Alors Charlène, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet qui me semble très important, dont on parle à la fois beaucoup en ce moment, mais face auquel finalement, bien souvent, on se trouve assez démunis en tant que marketeur, en tant que créateur, créatrice d'entreprise. Il s'agit du fait d'avoir une stratégie marketing et une stratégie de marque plus responsable. Effectivement, c'est dans l'air du temps, sauf que très franchement, comment faire ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est pas toujours très très clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu vas tout nous expliquer, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Charlène, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Bien sûr. Donc moi, je suis consultante en marketing responsable, spécialisée dans la création de marques à mission ou à impact. Donc j'accompagne essentiellement des entreprises, donc TPE, PME et puis des jeunes créateurs d'entreprises ou des indépendants à réfléchir voilà, sur l'identité de leur marque et la stratégie qui va derrière. Et puis je suis aussi cofondatrice d'une agence de communication responsable qui s'appelle Section Graphique. Et donc j'ai ces deux casquettes parce que je suis intimement convaincue que marketing et communication, ce sont deux disciplines qui doivent être liées, pensées, réfléchies et activées opérationnellement en même temps, conjointement, pour vraiment construire une marque qui soit forte, cohérente et sincère.
Ouais. Absolument. Alors là, je suis totalement, totalement d'accord et en phase avec toi. Alors on parle de marketing responsable. Tu sais, ça fait partie de ces grandes valeurs, de ces grands mots qui parlent à tout le monde, mais qui parlent à personne. Est-ce que je peux te demander ce que c'est que du marketing responsable ?
Bien sûr. Le marketing responsable, en fait, c'est le fait de créer une offre, donc de produits ou de services, ça fonctionne dans les deux cas de figure, qui est un impact à la fois sociétal, social, économique ou environnemental, qui soit un impact positif. Donc, ça recouvre bien les quatre champs que je viens de te citer. Donc, ça va un peu au-delà de juste l'impact environnemental qu'on traite beaucoup, qu'elle vend un peu en poupe en ce moment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer une offre qui soit utile et nécessaire pour son consommateur.
D'accord. Que je comprenne bien, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit faire que de la responsabilité, son objectif premier et seul, on a le droit de gagner de l'argent. On n'est pas dans, pour être très très clair, on n'est pas dans une association type loi 1901, on a le droit de gagner de l'argent avec ces entreprises-là.
Oui, oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de réfléchir à un besoin qui est réel sur le marché, c'est comment je réponds à une vraie problématique de mon consommateur et comment j'y réponds de manière responsable, c'est-à-dire en lui proposant une solution qui est utile et dont il a réellement besoin. Donc, ça peut être une marque de produits de consommation, ça peut être une offre de service en B2B, par exemple, ou même en B2C. L'idée, c'est vraiment juste de réfléchir non pas à vendre plus, à pousser à la surconsommation, mais vraiment à vendre mieux. C'est comment J'éduque le consommateur à consommer de manière plus responsable, à réfléchir à ses besoins réels, à réfléchir à ce qu'il va consommer, d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Voilà, c'est vraiment un moyen de transmettre aussi des valeurs qui sont importantes. Mais c'est voilà, vendre mieux et au lieu de vendre plus.
C'est intéressant que tu parles de ça, de valeur dans le marketing. On n'en a pas parlé en off en préparant cet épisode, mais sauf que moi, je suis en train d'écrire un livre. Alors, il est loin d'être fini, mais je suis en train d'écrire un livre sur... Alors, c'est le même sujet, mais pris peut-être d'un autre angle, mais ça se rejoint quand même sur le fait que le marketing n'a pas... Souvent, le marketing, on a une vision, quand on parle de marketing, du vendeur qui vend à tout prix, qui t'accroche, etc. Donc, une vision parfois un peu agressive, négative, là où moi, je suis persuadée qu'il existe plein de marketing différents, plein de façons différentes de le faire et que notamment, on peut le faire avec beaucoup d'éthique, avec des valeurs positives, en cherchant à apporter des choses réellement aux consommateurs et pas seulement à prendre l'argent du consommateur. Et tu vois, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, donc c'est très intéressant d'avoir ton avis et d'avoir surtout ton angle de vue sur ce côté responsabilité. Ça m'interpelle particulièrement. Et du coup, ma prochaine question, c'est Charlène, pour quelle raison est-ce qu'on aurait envie de, ou on aurait besoin, ou ce serait une bonne idée pour soi, pour sa marque, eh bien de repenser sa stratégie de marque avec cet angle responsable?
En fait, déjà, il y a une réalité qui est liée à notre contexte actuel, que ce soit le contexte environnemental ou le contexte sociétal. On est conscient, il y a vraiment une prise de conscience collective du fait qu'on est face à des problématiques, que ce soit sur le champ environnemental, le dérèglement climatique et toutes ses conséquences, la disparition de milliers d'espèces, l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde, le manque d'eau, de nourriture, ça c'est vraiment toute la partie environnementale. Sur la partie sociétale, on sait qu'il y a une transformation notamment sur tout ce qui va être relations dans le milieu du travail, l'augmentation et la prise en compte de toutes les minorités qu'on ne voyait pas forcément avant ou qui n'arrivaient pas forcément à s'exprimer, des nouveaux enjeux avec, par exemple, le fait qu'on soit en permanence connecté à de l'information instantanée. Toutes ces choses-là, qui font partie de notre contexte qui est mouvant, va forcément avoir un impact sur les consommateurs et du coup, vient perturber leurs besoins, leurs envies et leur façon de consommer. C'est-à-dire que il y a vraiment cette prise de conscience collective du consommateur qui est que sa consommation, ses besoins ont un impact sur d'autres choses que juste lui. Donc pour faire face à cette prise de conscience, les marques, il faut qu'elles réagissent parce que on voit que les consommateurs se détournent des marques qui ne prennent pas du tout en considération ces nouveaux enjeux. Typiquement, comme je disais, la préservation de la planète, l'amélioration des conditions de vie d'une partie de la population, le cadre de travail, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est un besoin nouveau des consommateurs qui ont besoin d'aligner leurs valeurs personnelles avec les valeurs des marques qu'ils vont consommer. Donc c'est un premier enjeu qui est de tout simplement pas disparaître hein, pour les marques qui ne correspondraient pas du tout à ces besoins-là des consommateurs.
Alors, tu vois, quand on dit ça, j'ai envie de te dire, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi, il y a un truc qui me fait toujours un petit peu peur. Et tu vois, on en parlait dans un épisode précédent, c'est l'épisode 122, où on se disait, mais attention, la difficulté quand on veut parler de responsabilité, etc., et notamment d'éco-responsabilité, c'est de tomber dans le greenwashing, tu vois, c'est-à-dire d'en faire peut-être un peu trop, et qu'on nous dise, attendez les gars, vous faites de la com, et du coup, c'est pire, parce que ça a un impact négatif, oui, finalement, sur l'image. Comment est-ce qu'on peut faire comme ça pour éviter de tomber dans le greenwashing?
En fait, c'est typiquement le parcours que j'ai eu, c'est que je suis rentrée dans la notion de responsabilité par le biais de la communication, en me disant, comment communiquer de manière plus responsable. Et plus je creusais, plus j'étais confrontée à ces notions, justement, de greenwashing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans juste c'est des belles paroles, mais il n'y a rien derrière. Et c'est là qu'intervient la notion de marketing responsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit une offre depuis la base qui est responsable, on n'est plus dans le greenwashing parce que toutes les composantes de notre produit, de notre offre, vont être pensées à travers le crible de la notion de responsabilité.
Ouais, c'est intrinsèque en fait. Et dès lors que c'est intrinsèque, on ne peut pas venir te dire, attends, c'est de l'esbrouffe ton truc, ça fait partie de ton ADN, quoi.
C'est ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Dès le début, tout est pensé, tous les champs de la marque, sa mission, ses valeurs, toute la déclinaison du produit, sa façon d'être distribué, tout le cycle de vie de ton produit ou de ton service va être pensé de manière responsable. Et donc, on n'est pas juste dans de la communication, entre guillemets, un peu paillette, comme j'aime le dire.
Ok, bon, très bien. Alors du coup, j'ai envie de te dire, mais c'est super tout ça, j'ai envie de le faire, mais comment je fais? Comment est-ce que je fais pour repenser toute cette stratégie de création de marque de façon responsable? Je commence par quoi?
En fait, comme je te le disais, il faut qu'on se... L'idée, c'est vraiment une démarche de questionnement. C'est comment, quand je construis ma stratégie de marque, je me questionne à chaque pan de cette stratégie sur l'impact que ma marque va avoir sur son environnement. La première étape, quand on crée une marque, c'est de créer son positionnement marketing, donc qui répond en fait à la question de comment je me situe sur mon marché. Et cette étape de positionnement, on va donc la réfléchir de manière responsable. Donc la première étape, c'est de créer un positionnement qui soit déjà responsable. Comment on fait ça? Donc la stratégie de positionnement, elle se découpe en trois parties. La première partie, c'est la partie de segmentation de mon marché. Donc comment je découpe ce marché en différents morceaux. Et la question qu'il faut se poser, c'est les critères que je vais utiliser pour segmenter mon marché, est-ce qu'ils sont discriminants? Ça, c'est la première question à se poser pour voir si on est responsable ou pas.
Oui, c'est pas tant, pardon, je te coupe, mais c'est intéressant cette façon de penser. C'est pas tant d'avoir un impact positif sur tes clients, etc. Hein. C'est pas que ça, c'est aussi dans ta façon de réfléchir à ton propre marché. Est-ce que toi, dans ta propre réflexion, tu es déjà discriminant ou pas? Est-ce que tu favorises peut-être certaines personnes ou pas? Est-ce que tu vois les gens sous un certain prisme ou pas? Finalement, c'est ça, c'est aussi dans la philosophie même.
En fait, dès le début, il faut mettre sa petite casquette responsabilité et se dire, voilà, toutes les questions que je me pose d'habitude, je me les pose en m'auto-questionnant et en me remettant en question, en me disant, voilà, est-ce que là, j'ai un prisme qui est biaisé? Est-ce que effectivement, typiquement sur la segmentation, est-ce que mes critères sont discriminants ou pas? C'est un exemple.
Super intéressant. Très bien. Okay.
La deuxième étape, c'est la notion, le moment du ciblage. Donc, c'est sur le segment de marché que j'ai choisi. Je vais venir donc définir ma cible. Et par exemple, la question mais primordiale à se poser, c'est est-ce que ma cible, elle a réellement besoin du produit ou du service que je lui propose? Et est-ce que ça a un impact positif pour elle? Donc, c'est vraiment cette question où tout à l'heure, je disais il faut se poser la question du besoin de ma cible. Est-ce que je réponds à un réel besoin? Et si oui, du coup, quel va être l'impact positif et le bénéfice pour ma cible?
C'est l'inverse, pardon, hein, j'essaye d'imager le truc. C'est l'inverse du vendeur de formation CPF par téléphone qui appelle tout le monde pour te dire si, il vous reste de l'argent, dépenser. C'est ça, hein, on
exactement
est d'accord.
Exactement ça. On ne fait pas de vente abusive.
On sent le vécu, hein, mais je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, je pense que j'ai 3 appels par jour quand je leur explique que je vends des formations CPF, ça les agace, mais bon, voilà. Ok, on a bien compris. Donc, segmentation, on se questionne. Oui. Est-ce que je suis discriminante dans ce que je fais?
Oui.
Dans ma réflexion. Ciblage, est-ce que les gens ont besoin réellement de ce que je vais proposer? Est-ce que ça a un impact positif?
Tout
est-ce qu'il
fait.
Y a une troisième étape?
Oui, la troisième étape, c'est justement le moment du positionnement. Et donc là, l'idée, c'est de se poser la question sur cette phase de positionnement. Donc, je décide que mon offre, elle va répondre à tel segment de marché, telle cible, et je la positionne selon tel axe stratégique. Est-ce qu'on est honnête et transparent sur le produit ou l'offre qu'on vend?
C'est-à-dire dans l'explication de voilà ce que c'est, voilà ce que je propose. Est-ce voilà. qu'on est absolument honnête, transparent ou est-ce qu'on a essayé d'orienter les choses avec tel ou tel mot parce que c'est plus joli, c'est plus vendeur, c'est plus ceci. En fait, c'est ça.
Tout hein, à fait. Et c'est logique, en fait, à partir du moment où on s'est dit que la cible, elle avait réellement besoin de notre service, il est facile d'être transparent et sincère puisque c'est normalement censé être une évidence.
Non, mais c'est ce que j'allais te dire un peu naïvement. J'allais dire, mais pourquoi est-ce que j'irais... tu vois, changer la réalité. Alors, j'entends bien hein, que parfois, on veut enjoliver pour vendre. Mais enfin, bon, la personne, elle va bien s'en rendre compte. À un moment donné, elle va appuyer sur acheter ou pas. Oui. Elle va bien se rendre compte. De fait, ça, c'est mon avis tout personnel. Oui. Même si on n'a pas envie d'être éthique et d'être dans une démarche particulièrement, ça n'a pas de sens de vendre un truc pour autre chose. Si vous vendez des patates pour des carottes, les gens vont s'en rendre compte à un moment donné, quand même.
Mais malheureusement, voilà, on le sait, il y a des marques qui l'ont fait parce qu'elles ne sont pas forcément dans le fait de vendre de manière récurrente, elles veulent juste vendre une fois et voilà. Si le client n'est pas satisfait, ben voilà.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ce genre de stratégie, ça fonctionne quand tu veux vendre une fois, mais et même pas longtemps, c'est quand tu veux vendre à une fois à une personne, mais pas longtemps parce que cette personne, elle va aller en parler autour d'elle.
Tout à fait. Donc,
de toute façon, c'est des stratégies, quoi qu'il arrive, très, 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 très court-termistes.
C'est ça.
Et négatives. Donc, effectivement, on peut les mettre de côté. Ok, très,
ce
très bien.
Ce qui est super important sur cette phase-là de positionnement, en amont, c'est de bien connaître sa cible.
Merci.
Il faut vraiment qu'on ait fait une vraie étude de marché, une étude de son persona. Enfin, voilà, si on ne connaît pas sa cible, forcément, même si on a les meilleures intentions du monde, on tombera à côté.
Ça marche à tous les coups, de toute façon, tant qu'on n'a pas, et je sais, et je le répète en permanence, mais il faut quand même se le dire, je sais que, et moi la première, hein, je te le dis Charlène, je dis aux personnes qui nous écoutent, ça me casse les pieds quand je lance un nouveau produit de me dire, il faut que j'aille réfléchir à mon persona, il faut que j'aille peut-être interroger des gens, etc. Il n'empêche que vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous ne le savez pas, vous allez peut-être vendre des choses, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais vous allez mal vendre. D'abord, pas forcément les bonnes choses aux bonnes personnes, d'une part. Et puis, vous n'allez pas toucher autant de personnes que vous en toucheriez, et bien, hein, si on faisait. Donc, bien sûr, il faut toujours commencer par le persona. C'est jamais du temps perdu. Et c'est toujours du temps de gagner, et pour vous, et pour les personnes qui vont acheter votre
C'est surtout
produit,
du temps gagné, parce que sinon, tu vas déployer des moyens énormes pour pas forcément t'adresser à la bonne cible ou pas de la bonne manière. Donc,
absolument.
Du temps gagné.
Ok, donc on a travaillé son persona qui va nous permettre de travailler un positionnement responsable. Je le résume en 2 secondes ce que tu viens de nous dire. Positionnement responsable, c'est dès la segmentation se poser la question, est-ce que je suis responsable dans ma segmentation? Est-ce que je suis discriminante dans mon analyse de mon marché? Ciblage, est-ce que c'est vraiment utile ce que je propose pour les personnes irait à travailler avec moi, est-ce que ça a un impact positif pour elle, pour l'environnement, et positionnement, est-ce que finalement, pardon, j'ai un trou de mémoire, positionnement, qu'est-ce qu'il fallait dire?
Est-ce qu'on est honnête et transparent dans notre discours sur notre produit?
Parfait, ok, on a les trois. Une fois qu'on a ce positionnement responsable, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a fini, on s'arrête?
Non, on rentre dans le dur du sujet. On va travailler toutes les composantes de notre produit avec le fameux outil marketing le plus connu, à savoir le marketing mix. La petite différence, c'est que dans le marketing mix classique qu'on connaît un petit peu tous quand on a fait du marketing, il y a 4 P, donc pour product, price, promotion et place, donc qu'est-ce qu'on vend, product, à quel prix, par quel canaux de distribution et comment on communique autour. Donc ça, c'est les 4 P fondamentaux de notre produit. On vient rajouter 3 P qui sont, donc en français, pourquoi, les personnes et la planète. Voilà, donc c'est 3 nouvelles dimensions qui sont utilisées dans le marketing durable pour venir construire notre offre.
Et donc, ce pourquoi personne et planète, que je comprenne, pourquoi, c'est quel est l'impact? C'est ça qu'on vient regarder?
Alors, le pourquoi, c'est quel est le but de l'entreprise? Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on vient promouvoir ce produit ou ce service? C'est vraiment de se questionner fondamentalement sur notre pourquoi. On peut utiliser l'outil qui est beaucoup utilisé en développement personnel, l'Ikigai, qui est ce fameux outil de positionnement, en fait, entre de trouver le meilleur compromis entre ce qu'on aime, ce en quoi on excelle, ce pourquoi on est payé, rémunéré et ce dont le monde a besoin. Donc, on peut se poser la même question pour l'offre qu'on vient créer, qui va vraiment répondre à cette question de quel est le but réel de l'entreprise.
D'accord. Le but sous notre scope ou le but au sens impact de l'entreprise?
Au sens impact.
D'accord.
Qu'est-ce qu'elle va venir apporter?
outre le fait de rendre son PDG milliardaire, quoi.
Par exemple.
Qui a le droit d'être milliardaire si ça lui fait plaisir, en fait, c'est ça qu'on se dit, hein. Mais est-ce que ça a un impact? Est-ce que on est plutôt Total ou est-ce qu'on est plutôt Patagonia, quoi? Je fais ça, des gros...
Tout à fait. Ce à quoi on veut contribuer.
Ok, très bien. Tu nous as dit aussi People et Planète. Qu'est-ce qu'on met derrière People?
Alors, là,
People, j'ai dit en français, oui, personne.
En fait, là, l'idée, c'est de réfléchir aux personnes à qui on s'adresse et au discours qu'on va leur tenir. Donc, c'est la notion un petit peu de storytelling responsable. On sait que dans la stratégie de marque, on va venir raconter une histoire autour de notre marque, que ce soit autour de la création de la marque ou autour du produit en lui-même. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir une histoire qui soit la plus sincère possible, la plus transparente possible. On n'en rajoute pas, mais voilà, on transmet réellement le pourquoi on a créé cette marque et l'histoire qu'on veut venir raconter autour, pour faire rêver, hein, c'est un peu l'idée du storytelling. Et on peut aussi co-construire son offre avec son audience. L'idée, c'est de vraiment venir impliquer les parties prenantes. Mais là, on est vraiment concentré dans le people, on est vraiment concentré sur sa cible et son audience, de co-construire le plus possible avec elle, bah, du coup, pour être sûr que ce qu'on va venir construire, c'est adapté à ce dont elle a besoin réellement.
Super intéressant. Je reviens une seconde sur ce que tu disais sur le storytelling. Je trouve ça intéressant. Le storytelling, évidemment, c'est une stratégie... Enfin, c'est un élément qui est devenu maintenant fondamental, bien sûr, dans la communication d'une marque. Ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision altérée du storytelling. Beaucoup de gens, je pense, imaginent que le storytelling, c'est enjoliver les choses. C'est faire en sorte de rendre les choses plus brillantes, plus belles, plus appétantes, plus... Voilà. C'est pas ça, le storytelling. Le storytelling, c'est raconter... quelque chose, un état de fait, mais au lieu de donner juste les faits, ce qui, on va se le dire, est théorique et donc pas très, toujours très intéressant, très attrayant, exactement, raconter ces mêmes faits, mais en racontant une histoire comme on raconterait une histoire à un enfant. En fait, c'est ça. Un enfant, plutôt que lui raconter la morale de « il faut pas dire des mensonges, c'est pas bien », on va lui raconter une histoire autour parce que bien sûr que ça va plus l'intéresser. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand on grandit, on a quand même le même cerveau que quand on était petit et on est un petit peu feignant. Et en fait, avoir des choses, des informations qu'on nous donne comme ça de façon un peu brute, eh ben, ça nous rebute un peu parce que voilà, c'est beaucoup plus intéressant de passer par le divertissement, de passer par quelque chose qui, en fait, nous fait agir des choses dans le cerveau de l'ordre du plaisir. Et c'est ça le storytelling. C'est pas autre chose. Le storytelling, c'est utiliser le plaisir, entre guillemets, au travers de raconter une histoire pour faire passer un message. Ça veut pas dire enjoliver la réalité ou changer la réalité. Je me permets de le dire parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui... se trompent sur le storytelling et du coup, eh ben, ils ne rentrent pas dans le people, dans le person comme on voudrait. Voilà.
Tout à fait. Et tu parles de la notion de plaisir, mais on peut jouer avec toutes les émotions dans le storytelling. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus on va faire ressentir d'émotions à son audience, plus on va la faire adhérer à notre marque et on va l'embarquer avec nous.
Exactement. C'est même extrêmement recommandé que d'aller chercher les émotions. C'est ça qui fait bouger les gens, que ce soit le portefeuille ou que ce soit l'action ou que ce soit d'évoluer intellectuellement, j'allais dire mentalement, intellectuellement. Donc oui, bien sûr, les émotions. Donc on a nos 4 P, on a personne, on a le pourquoi. Le dernier, c'était planète. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, notre jolie planète?
L'idée, c'est d'arriver à mesurer l'impact environnemental de toute la chaîne de valeur de notre produit ou de notre service. Donc pour ça, il y a un outil qui est l'outil phare utilisé en éco-conception de produits aujourd'hui, donc c'est l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, en fait, c'est une analyse qui est composée de plusieurs étapes et de beaucoup de critères qui va venir mesurer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Tout au long de la vie tout au long de son cycle de vie, en fait. Donc ça veut dire à l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par sa production, sa consommation, sa réparabilité, enfin voilà, ses usages. Ça implique vraiment tout son cycle de vie à ce produit. Et donc l'idée, c'est de, par cette analyse-là, c'est d'identifier les opportunités d'amélioration qu'il peut y avoir, de mettre en place des objectifs qui soient chiffrés sur chaque étape de son cycle de vie, et de communiquer à ses parties prenantes son bilan actuel et sa stratégie pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a vraiment cette notion de transparence, là encore, qui est importante. Et donc, par on va dire, la mise en place de cette analyse-là, on a une première garantie de mesure de son impact sur la planète, donc son impact environnemental.
Pardon Charlène, mais alors j'imagine quand on est une grosse entreprise, on fait appel à probablement des cabinets d'audit qui prennent ça en charge. Si je suis une TPE ou si je suis un indépendant ou si de toute façon j'ai même une entreprise plus grosse mais j'ai pas beaucoup de budget, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en interne? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui peuvent nous aider à le faire nous-mêmes ou on doit nécessairement passer par un cabinet externe?
Alors au-delà des cabinets externes, il y a beaucoup de consultants indépendants qui le font aussi. Et qui ont ces offres-là construites justement pour des petites entreprises. Alors, ça peut être des consultants RSE, ça peut être des consultants juste spécialisés dans l'éco-conception de produits, voilà, qui du coup sont, d'un point de vue budgétaire, beaucoup plus accessibles. Après, moi, j'ai pas creusé la partie complètement autonome. J'imagine qu'il doit y avoir des outils qui permettent quand même de pouvoir le faire par soi-même. Après, les critères de la CV sont disponibles sur Internet. On peut les retrouver assez facilement. C'est peut-être plus dans l'interprétation des critères où ça doit être un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément un champ sur lequel je conseillerais d'y aller tout seul, parce que je pense que c'est quand même un petit peu touchy d'arriver à interpréter réellement chaque critère. Et puis quand on tombe dans cette notion de mesurabilité, de calcul, tout ça, c'est un peu plus compliqué de dire voilà, je l'ai mesuré tout seul et d'avoir la même
cette objectivité. Ouais.
Voilà, les consommateurs auront un peu moins confiance et puis même nous, on sera moins objectifs. Donc ça fait quand même partie des démarches où il vaut mieux se faire accompagner, mais voilà, avec un consultant indépendant, ça ira très bien.
Ouais, on n'est pas obligé d'avoir un budget énorme pour faire ça. On peut tout à fait travailler avec un consultant qui va avoir des offres adaptées.
Parfait. Tout à fait.
Très bien. Donc, on a notre positionnement, on a notre mix produit avec nos 7P au lieu des 4P. Qu'est-ce qu'il en est de la marque, du branding? Tu sais, c'est un peu le mot à la mode, le branding. Est-ce que ça aussi, c'est à regarder sous un prisme responsable. Est-ce qu'on peut le faire?
Oui, on peut le faire. En fait, l'idée, ça va vraiment être de repasser donc, dans la notion de branding sur la partie vraiment stratégique, donc l'identité de marque. On a trois piliers qui sont donc la mission, la vision et les valeurs de la marque ou de l'entreprise. C'est pareil que ce qu'on disait au tout début, c'est de se poser les bonnes questions avec ce prisme de responsabilité. Donc, si on prend le premier exemple, la notion de mission, la première question qu'on va se poser, donc, pour savoir quelle est la mission de mon entreprise ou de ma marque, c'est quelle est sa raison d'être. Et la notion de raison d'être, c'est la base de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, à partir du moment où on vient corréler cette raison d'être, cette mission de ce produit ou de cette marque à la stratégie RSE qu'on envisage pour son entreprise, on vient déjà un petit peu garantir cette cohérence au niveau de la notion de responsabilité. Par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est la solution que on souhaite apporter au problème qui a été identifié, est-ce que elle est mise en œuvre de la façon la plus responsable possible? C'est vraiment, il y a forcément plusieurs façons de répondre à un besoin sur le marché et à un problème de mon consommateur, mais est-ce que moi, ce que je mets en œuvre, c'est la façon qui est la plus responsable possible? Donc, ça peut être dans la conception de mon produit, j'ai travaillé de mon produit physique, j'ai travaillé les matières premières, le sourcing, j'ai travaillé la partie production pour consommer le moins d'énergie possible. Enfin voilà, c'est vraiment de prendre en compte toutes ces phases-là pour voir si en fait il n'y a pas un décalage entre ma raison d'être et la solution que je propose.
D'accord. Ok, très très clair. Effectivement, si on n'est pas aligné, c'est bien beau d'avoir des idées en tête. Si on ne met pas les actions en face, ça ne marche pas et vice-versa. Ok. Moi, quand je pense marketing, d'ailleurs, tu le disais en intro, marketing et communication, ça va ensemble. J'imagine que la communication, la façon dont on va parler de notre marque, parler de notre produit, notre service, de ce qu'on a à proposer, ça va avoir un impact aussi et qu'il faut le réfléchir plus particulièrement.
Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où on a cette envie, c'est écrit dans notre ADN, dans notre stratégie d'entreprise et dans notre stratégie de marque, qu'on veut à la fois limiter le plus possible l'impact négatif sur l'environnement ou sur la société de notre marque et contribuer à avoir un impact le plus positif possible, il est évident qu'il faut réfléchir à ses outils de communication et à sa stratégie de communication sous ce prisme-là. Donc, en fait, il faut le décomposer en deux temps. La première partie, c'est ma stratégie de communication, comment je fais pour être sûre qu'elle soit la plus responsable, la plus éthique possible. Donc là, moi, j'ai tendance à utiliser cinq critères principaux. Le premier, c'est la transparence. Est-ce que je suis transparent dans ma communication envers mes consommateurs? Ça peut être de partager la décomposition de mes produits sur les produits de beauté, par exemple. C'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup maintenant. La décomposition de son prix. Pourquoi pas vraiment être suffisamment clair sur quelle partie de mon prix va venir financer quoi et quelle va être ma marge. L'impact carbone de mon produit. Ça peut être aussi avec le fait de travailler avec des influenceurs qui sont responsables dans leur communication aussi. Il ne faut pas oublier les parties prenantes. Il n'y a pas que ma communication directe, il y a aussi les partenaires que je vais utiliser dans ma communication. Donc ça, c'est la notion de transparence. La deuxième notion, ça va être la notion de respect. Est-ce que ma communication, elle est respectueuse envers l'intégralité de ma cible? Donc là, typiquement, il peut y avoir cette notion de partenaire. Donc il y a les cibles consommateurs, il y a les fournisseurs, le fait de les mettre en avant, par exemple, de dire voilà, je collabore avec tel fournisseur. Il va y avoir aussi potentiellement des sous-traitants, c'est pareil, on peut aussi les mettre en avant dans sa communication de manière respectueuse. On peut avoir aussi vis-à-vis de notre consommateur des pratiques pour leur faciliter leur liberté, par exemple la désinscription la plus facile possible à la newsletter. Ça, c'est un truc...
C'est un élément légal, je le rappelle. Si vous avez une newsletter, vous devez proposer de façon ultra simple et claire et visible et pas écrit en mini rikiki de chez rikiki, le fait de se désinscrire, bien sûr. Mais il y a même des marques... être plus transparent et plus facile
c'est
pour
ça. Aider les gens. Il y a des marques qui le mettent, au lieu de le mettre en bas de page, qui vont venir le mettre tout à fait en haut de leur newsletter ou qui vont le mettre en très gros parce que c'est un parti pris assumé de dire, voilà... sentez-vous libre de partir si jamais le contenu ne vous intéresse plus.
J'en profite d'ailleurs pour dire que ça a deux avantages. C'est un avantage qui est que si la personne n'a plus envie de nous lire, quand même, ça ne sert à rien de lui envoyer des emails qui participent à polluer, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que ça reste sur des serveurs et que tout ça, c'est de l'énergie. Donc ça, c'est un avantage. Ça a aussi un avantage économique pour la personne qui envoie les emails d'avoir des abonnés sur sa newsletter. Ça coûte pas très très cher, mais enfin ça coûte quand même de l'argent. Donc si vous avez sur votre newsletter des gens qui n'ont pas envie de vous lire, ça vous fait plaisir à vous d'avoir 300 000 abonnés sur votre newsletter, mais enfin ça vous coûte de l'argent pour rien, donc ça n'a aucun intérêt. Je le dis, je le redis, parce que souvent les gens me disent oh, tu te rends compte, j'ai perdu des abonnés. C'est pas du tout grave de perdre des abonnés, c'est une bonne chose. Vous ne dépensez pas de l'énergie pour rien et vous ne dépensez pas votre argent pour rien, donc allez-y, aucun problème avec ça.
Donc ça c'était la partie un peu, on va dire, notion de respect. Une autre chose qui est très importante, c'est est-ce que ma communication elle est inclusive. J'en parlais un petit peu au tout début, il y a énormément de minorités qui ne se sentent pas forcément, enfin pour qui la communication n'est pas rendue facile, accessible, de par les outils qu'on va venir utiliser notamment. Ou de par les visuels qui sont utilisés. Donc typiquement, dans les photos qu'on va venir illustrer, enfin avec lesquelles on va venir illustrer notre produit, on va pouvoir montrer tous les âges, tous les sexes, toutes les ethnies. On va vraiment venir montrer l'intégralité de notre cible pour qu'elle se sente le plus inclus possible. Ça va être aussi de favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap, donc que ce soit handicap visuel, handicap cognitif, enfin tous les handicaps possibles, que la communication leur soit accessible. Par exemple, sur Internet, on sait qu'il y a de nombreux... Donc les personnes qui sont malvoyantes, elles vont utiliser des lecteurs d'écran. On pense pas forcément que en fonction de la façon qu'on... de la typologie, de la couleur, de... de la typographie, en fonction de la façon dont on va venir écrire en fait sur son site internet, sur les réseaux sociaux, sur tous les supports de communication, on va dire plutôt numérique qu'on va venir utiliser, selon les choix qu'on va faire, c'est juste complètement illisible par un lecteur d'écran pour les personnes malvoyantes.
Dites-vous bien d'ailleurs, pardon, j'essaye de reboucler à chaque fois sur aussi des éléments juste intéressants, hormis le côté impact, où vraiment envie de changer les choses, c'est que Google, quand même, Google, c'est un peu le maître du SEO dans notre brave monde. Google, lui, ce qu'il veut aussi, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès. Et donc, Google, c'est important pour lui l'accès à absolument tout le monde, et notamment l'accès selon les différents handicaps qui peuvent y avoir. Et je pense notamment à une chose toute bête. Vous savez que sur vos images, sur un site internet par exemple, vous avez la possibilité de mettre un titre, ce qu'on appelle alt, alternatif, c'est-à-dire en fait une description de l'image. À quoi ça sert? Ça sert typiquement, tu parlais des lecteurs d'écran, c'est juste un texte qui va permettre de dire sur cette image, je vois un panda qui fait du vélo. Ce qui fait que la personne qui est malvoyante, l'audio va pouvoir lui dire il y a une image avec un panda qui fait du vélo. C'est pas un hasard, en fait, si ces textes, ces titres alternatifs sont positivement notés par Google. C'est pas tant que les sites n'arrivent pas à se charger, parce on dit souvent que c'est ça, que c'est parce que c'est les sites qui n'arrivent pas à se charger, qu'il faut mettre un petit texte pour dire ce qu'il y avait. La réalité, c'est que personne ne le lit quand l'image se charge pas. C'est que c'est pour être plus inclusive et permettre à un maximum de monde de pouvoir profiter des éléments. Donc, faites-le. Et si vous ne le faites pas, ce que je vous souhaite de le faire, mais si vous ne le faites pas pour être plus inclusif, faites-le pour le SEO, ça marche aussi.
Il y a énormément en fait de bonnes pratiques qui vont et dans le sens de l'amélioration de son produit, de son service et de sa distribution, et dans le sens d'un impact positif en fait.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Oui. Ça veut dire que la société, de façon globale, tend vers ça. Réjouissons-nous, mais dites-vous bien que, oui, certes, c'est un effort. On ne va pas se leurrer. Bon, c'est un petit effort que d'aller mettre un titre alternatif. Ça va, on va s'en remettre. Mais oui, certes, c'est un effort, mais ce n'est pas un effort au hasard. Et en plus de ça, non seulement ça a un impact, mais en plus de ça, ça aura un impact positif sur votre business. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver.
Tout à fait. Et les deux derniers champs à penser donc, quand on met en place cette stratégie de communication éthique, c'est est-ce que notre communication elle est de proximité. Moi je mets beaucoup en avant la notion de stratégie building public, donc le fait de co-construire avec son audience sa marque, la création de son entreprise, c'est vraiment l'idée de les faire participer. On récolte de l'info, de la matière, on récolte des données qui sont hyper hyper puissantes, parce que derrière on affine notre offre, et en même temps on les fait participer. C'est une vraie demande aujourd'hui quand même des consommateurs d'être le plus actif possible avec les réseaux sociaux, avec on a beaucoup d'outils qui permettent de communiquer directement entre la marque et son public. Donc cette notion de co-construction, elle est hyper intéressante.
Mais pourquoi est-ce que la co-construction, c'est responsable en soi? Quel est le lien?
Parce que tu vas être au plus près des besoins et des valeurs de tes consommateurs. C'est-à-dire que tu viens pas plaquer sur eux ta vision de leurs besoins ou ta vision de la réponse à apporter. Ils vont très rapidement te faire des retours sur ce dont ils ont besoin, sur ce qu'ils pensent de ton offre, et tu vas pouvoir la réajuster. Et du coup, elle sera au plus proche de cette notion, ce que je disais tout à l'heure, d'utilité de ton offre.
Ok, super clair, effectivement.
Donc le tout dernier point, c'est la notion de sobriété. Est-ce que tu communiques de manière sobre? Alors, dans l'esprit des gens, ça, c'est pas forcément le deux choses qui vont ensemble, communication et sobriété. Mais ça reboucle un peu avec ce qu'on disait juste avant. Le fait d'avoir une communication qui soit sobre va aussi dans ce sens de vu que je communique moins mais mieux, mon discours il est finalement mieux entendu par ma cible, puisque je ne l'ai pas inondé d'informations sous 15 canaux différents, avec 15 posts par semaine sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je j'ai moins communiqué, donc ma parole va avoir plus de valeur pour mon audience. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois utile, du coup, et responsable, puisque je fais attention à ne pas charger mentalement mon audience.
Et en plus de ça, puisque tu as travaillé ton persona, tu communiques directement ou en tout cas plus particulièrement envers la personne ou les personnes qui sont les plus à même d'être intéressées par ce que tu as proposé, et tu ne communiques pas tu vois, de façon massive comme on faisait avant. Hein. Avant, c'était le mass média, on communiquait pour tout le monde, on essayait de te vendre la lessive plus blanc que blanc, et que tu aies besoin de lessive ou que tu n'aies pas besoin de lessive, on s'en fichait. Là, maintenant, on a cette possibilité, il faut s'en servir, bien sûr, d'aller vraiment segmenter, d'aller toucher les bonnes personnes. Ça permet de ne pas inonder, effectivement, les personnes qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on propose.
C'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée de penser toute sa stratégie de communication de manière responsable. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a pensé à la stratégie, il faut voir comment on la met en œuvre avec nos outils. Et là, c'est la partie qui est peut-être la moins connue aujourd'hui, ou celle sur laquelle on se sent un peu le plus seul. Moi, j'ai souvent les entreprises que j'accompagne qui me disent, bah, ok, d'accord, mais maintenant, je fais comment pour mesurer concrètement le poids de l'outil que je vais utiliser pour communiquer? Est-ce qu'il vaut mieux que je communique sur du papier ou sur du numérique? C'est quoi la différence entre les deux? Et finalement, comment je fais pour savoir combien je pollue au quotidien avec ma communication. Donc déjà, la base, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de se dire, c'est un vase dans lequel il y a plein d'éléments, et je vais venir mettre des ingrédients en communication numérique, des ingrédients en communication papier, et tout ça, ça fait un tout, et ça fait une balance à la fin, et ça donne un poids. C'est pas je fais que du papier ou je fais que du numérique, c'est pas l'un qui est mieux que l'autre, c'est de mettre en face les outils, en face de sa stratégie, pour que ce soit utile. C'est-à-dire que si je communique sur Internet, mais que ma cible, elle va être touchée que par du papier, ça sert strictement à rien, et vice-versa. Donc, tu as toujours cette notion de qu'est-ce qui est le plus utile dans ma communication, quel est le canal de communication le plus utile. Et derrière, peut-être que je vais un peu plus communiquer là-dessus et que sur le papier, ça pollue un peu plus. Mais comme je vais moins communiquer de l'autre côté, finalement, je vais m'y retrouver. Donc, c'est vraiment cette notion d'équilibre qu'il faut rechercher. Donc, typiquement, sur par exemple la partie communication papier, il va falloir réfléchir à toutes les composantes visuelles de ta communication. Donc par exemple, les typographies que tu utilises, mm-hmm. les couleurs que tu utilises,
le papier que tu utilises,
les encres que tu utilises. Tout ça, c'est des composantes qui sont hyper importantes. Donc, il faut savoir que, par exemple, tu as des typographies qui sont appelées des éco-typographies parce qu'elles consomment moins d'encre.
Et ça, c'est tout simple à faire. Hein. Il suffit de changer sa typo tous les jours. On n'est pas en train de parler forcément d'impression d'affiches de pub. C'est aussi de l'impression de l'imprimante au bureau potentiellement.
C'est ça, tout à fait. C'est tout ce qu'on va venir imprimer qui va nous servir effectivement à communiquer un message. Par exemple, pareil sur les couleurs, il y a ce qu'on appelle des éco-couleurs parce que c'est des couleurs qui consomment moins d'encre, elles sont moins saturées, elles ont moins en fait de concentration de couleurs, et donc elles ont moins d'encre. Le papier, donc on a tous en tête la notion de papier recyclé ou recyclable. Bon, faut savoir que le recyclage du papier, c'est pas très très écologique, ça consomme beaucoup d'eau. Donc on va plutôt avoir tendance à se tourner vers des papiers qu'on appelle des papiers écologiques, qui sont des papiers qui utilisent des déchets végétaux, qui vont venir utiliser par exemple des fruits ou des légumes, et qui donc le papier va être fabriqué avec des déchets de fruits et de légumes qui n'ont pas été consommés, qui sont issus de la surproduction agricole ou de choses comme ça.
C'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut être aussi créatif en fait avec tous ces éléments là. Souvent on a tendance à se dire il faut encore que je fasse des trucs moches et des machins. Et en fait, non, c'est pas ça la question. C'est qu'il y a plein d'innovations finalement qui existent dans ce milieu-là. Le fait que ce soit un peu à la mode et qu'on en parle, ça joue, et ça joue positivement. Et donc, on peut aussi être créatif grâce à ça et en plus avoir un impact. Donc, il faut vraiment aller creuser le sujet. On va pas rentrer dans le détail de tous les sujets parce qu'il y en a plein au niveau de l'utilisation de tous ces outils de communication. Mais en tout cas, il faut aller se questionner sur ce qu'on utilise et est-ce que c'est, un, la bonne façon de l'utiliser. Deux, est-ce qu'il y a des façons peut-être moins polluantes, oui, avec un impact plus positif qui existent? Et qu'est-ce qui est fait sur le marché? Qu'est-ce qui est nouveau? Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Je vais essayer, Charlène, si tu veux bien, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais on va essayer de résumer. Je vais essayer de résumer très rapidement ce que tu viens de nous dire sur ce fameux marketing de marque responsable. Qu'est-ce que c'est que d'être responsable? Eh ben, c'est le fait déjà de se poser des questions. Moi, j'ai envie de le résumer comme ça, très simplement, c'est de se dire, les choses peuvent pas forcément être parfaites, mais n'empêche que j'ai le droit de me poser des questions pour voir si je peux, à mon niveau, et quel que soit le niveau, je modifier des choses pour l'être plus. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller se poser des questions sur cette fameuse responsabilité? Bien évidemment, parce que c'est intéressant, ça a un impact sur notre environnement, sur notre société, ça bien sûr. On va aussi aller se questionner sur le véritable besoin des consommateurs et arrêter d'avoir ce marketing qui a une vision négative que moi, déteste, qui est, voilà, je vends pour vendre et je vais faire plein d'argent, etc. Ça n'est pas que ça et ça n'est pas nécessairement ça, le marketing, est fort heureusement. Et puis, de faire attention de ne pas tomber dans le greenwashing, c'est-à-dire dans le « oh mais attends, tu nous parles de communication verte parce que tu veux faire un petit peu, tu veux te faire mousser, mais en fait, tu n'es pas du tout vert ». Le moyen d'éviter ça, c'est tout simplement d'intégrer cette responsabilité depuis le début dans notre marque et que ce soit un questionnement, encore une fois, qui nous suit au quotidien et pas un truc qu'on a plaqué comme ça une fois. C'est vraiment une façon finalement de penser. Alors, évidemment, là, on se pose la question, non mais d'accord, ok Estelle, je vais me poser des questions, mais comment je fais pour me poser les bonnes questions et pour avancer? Ben, ce que tu nous dis, c'est déjà, on peut commencer par avoir un positionnement responsable. Un positionnement responsable, qu'est-ce que c'est? Tu nous donnais plusieurs exemples. Ben, la segmentation, quand on commence par segmenter son marché, on peut se poser la question, est-ce que je suis discriminant, discriminante dans ce que je suis en train de plaquer moi sur le papier, dans ma vision propre de mon marché? Également sur le ciblage, est-ce que je cible correctement les choses? Est-ce que je donne la place à toutes les entités ou toutes les personnes ou toutes les cibles possibles? Est-ce que je suis discriminante finalement? Et puis, de façon générale, avoir un positionnement plus responsable ou plus équilibré. D'un point de vue du mix produit, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a le fameux mix 4P qu'on connaît très bien, mais toi, tu nous en rajoutes trois qui sont pourquoi, personne et planète. Tu nous disais d'ailleurs que sur la planète, on peut aller travailler avec, pardon, sur le pourquoi, excuse-moi, on peut, je ne sais plus si c'est le pourquoi et la planète, je me mélange, mais peu importe, on peut aller travailler avec un indépendant qui va aller nous aider sur ce fameux ACV pour aller calculer le cycle de vie de notre produit. Et puis, on peut travailler un branding plus responsable. Qu'est-ce que c'est un branding plus responsable? Ben, c'est un branding qui va nous garantir en fait une cohérence dans ce qu'on pense et ce qu'on fait, entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ça nous évite le greenwashing aussi, donc c'est pas plus mal. Et puis bien sûr, sur notre communication, sur nos actions quotidiennes de communication, on peut aller travailler la responsabilité avec des actions plus responsables en termes de stratégie de communication éthique, transparente, respectueuse, avec une certaine sobriété éditoriale et puis en utilisant des outils qui vont être le moins polluants possible. Tu en parlais avec des encres, des couleurs, des papiers, etc., qui vont être plus bénéfiques. J'ai essayé de faire un résumé rapide. Alors, bien sûr, c'était un peu rapide par rapport à tout ce que tu nous as dit, mais je pense que c'est important aussi d'essayer de voir la globalité et surtout de voir que finalement, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt. J'ai envie de conclure là-dessus, si t'es d'accord, Charlène, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas un doux rêve, qu'on peut mettre sur un coin de papier. C'est vraiment quelque chose qui est faisable dès lors qu'on le fait au quotidien. C'est ça que tu veux nous faire passer comme message?
Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis partisane du fait que dès qu'on a cette prise de conscience, on va avoir cette volonté qui est réelle d'avoir un impact positif. Et donc, à partir du moment où cette volonté elle nous habite, on va forcément y penser dans tous les champs de notre stratégie d'entreprise au sens large. Donc, ça fait appel à la notion de RSE, hein, la responsabilité sociétale de l'entreprise. On va y penser dans notre politique RH. On va y penser évidemment dans la stratégie marketing, dans la stratégie de communication, même dans sa stratégie commerciale. Vraiment, dans tous les champs de son entreprise, ça va venir nous habiter et c'est ça qui va faire que c'est sincère. Et à partir du moment où ça nous habite, forcément, c'est faisable, c'est accessible. On peut trouver beaucoup d'informations par soi-même. On peut, sur certains champs, se faire accompagner quand il y en a besoin. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment réalisable, chacun y mettant un petit peu sa petite goutte. C'est le fameux effort collectif auquel on croit tous.
Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Charlène, d'être venue nous parler de ce sujet j'allais dire du moment, malheureusement, du moment, mais en tout cas, dont on entend le plus parler, et c'est très bien, mais surtout d'être venue nous clarifier sur comment est-ce qu'on fait pour avoir un marketing et une communication plus responsable. Charlène, si les gens qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus, ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, dis-moi?
Écoute, pour l'instant, il peut me retrouver majoritairement sur LinkedIn, puisque c'est là que je suis la plus active. Et puis, prochainement, sur mon site internet qui va bientôt sortir de manière éco-conçue, bien sûr, pour polluer le moins possible.
Eh ben, génial. Écoute, je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Charlène. Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing.
Avec plaisir, Estelle. Merci.
Merci beaucoup Charlène pour tous tes conseils ultra activables. On va pouvoir mettre des actions concrètes en place pour travailler notre stratégie de marque de façon plus responsable. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing et en avoir toujours plus, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Dans cette newsletter, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez toutes les semaines, bien évidemment, l'invitation à écouter le podcast de la semaine. Je vous fais un petit résumé ou un petit teasing de l'épisode. Et je vous propose aussi mes bons plans, les actualités en lien avec les événements auxquels je participe, les promos parfois que je peux avoir auprès de certains partenaires. Et puis, tous les cadeaux bonus directement dans votre boîte mail. Pour vous abonner à la newsletter, c'est super simple. Il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.